Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dernier Étage. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Célia Boulbet. Bonjour.
Bonjour.
Fondatrice de Talca. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ?
Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravie d'être là. Je suis donc la fondatrice de Talca.
Oui.
C'est une entreprise que j'ai créée avec mon mari. Il y a 5 ans, on fait du mobilier en pierre naturelle haut de gamme à destination des particuliers et des pros.
Donc ça fait 5 ans déjà que Talca est créé. Ah oui, je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps que c'était.
Oui, ça fait 5 ans. Au début, on n'était pas à temps plein dessus. Et puis au fur et à mesure.
L'activité a grossi et on s'est dit qu'on allait se lancer à plein temps.
Exactement.
Et vous avez toujours travaillé dans le mobilier ou avant vous faisiez des choses différentes tous les deux ?
On a toujours travaillé dans le mobilier. Pour moi, c'est au-delà de mon activité professionnelle. C'est vraiment. Ma passion, le design, le mobilier, l'art en général. Et du coup, j'ai toujours su que je voulais travailler là-dedans. Et en fait, Thomas et moi, on est extrêmement complémentaires. Lui, d'accord, plutôt sur la partie logistique, achat, finance, il est ingénieur.
D'accord.
Et moi, sur la partie plutôt artistique, marketing. Et en fait, on travaillait dans le secteur, on était complémentaires, donc c'est pour ça qu'on...
Que vous avez monté cette entreprise.
Voilà.
Du coup, si tu me dis que vous avez quitté votre job, c'est qu'avant vous étiez en CDI et vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat ou vous avez toujours été entrepreneurs tous les deux ?
Non, on a été en CDI, on a ensuite eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle qui nous a permis d'avoir une espèce de lampe de lancement pour nous... pour créer notre entreprise. Et en fait, tout a commencé pendant le Covid, où je pense qu'on avait, d'accord, un peu plus de temps. On a eu la chance de passer un Covid dans de très bonnes conditions.
OK.
Et du coup, c'est là où on a eu nos premières idées, mais on parlait de créer quelque chose ensemble, que ça soit pas forcément une entreprise, mais en tout cas un projet à deux depuis très longtemps. Et du coup, quand j'ai eu cette idée, parce qu'en fait, je cherchais une table en pierre pour chez nous.
D'accord.
Je trouvais pas ce qui me plaisait.
Okay.
Je trouvais des choses vintage ou pas adaptées à des intérieurs contemporains. Et
d'accord,
quand je cherchais cette table, tout de suite, je me suis dit, ah, mais c'est ça qu'on doit faire.
Okay.
Et c'était aussi couplé au fait que je connaissais très bien le secteur, que je lisais beaucoup la presse internationale.
D'accord.
Et donc, quand j'ai eu cette idée, j'avais le secteur en tête et je l'ai tout de suite proposé à Thomas. Et on a eu cette intuition très forte que c'était vraiment ça qu'on devait faire.
Ok. Et le fait de parce que c'est aussi une étape de se dire bon bah alors même si ça commence bien à fonctionner, je quitte mon CDI pour aller finalement être à mon compte. Est-ce que ça vous a fait peur ou est-ce que ça a toujours été une ambition chez vous de dire je monte mon entreprise, faut prendre des risques. Est-ce que là-dessus il y a quelque chose?
Alors non. Alors je pense que qu'on était plus jeunes, on n'avait aucune attache, on n'avait pas encore d'enfants.
D'accord.
On n'avait pas encore acheté d'appartement, on n'avait pas de prêt. Et au tout début de Talca, on avait honnêtement pas du tout peur. Il y avait que de l'excitation. Et on s'est pas. En fait, au début, c'était un projet un peu en side. On s'est pas dit qu'on allait créer une entreprise qui nous.
Oui, c'était un truc en plus qui peut.
C'était vraiment en plus. C'était histoire d'avoir un projet tous les deux. Mais on savait pas du tout où ça nous menait. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait faire les choses bien dès le début parce qu'on se disait au pire, ça marche en fait.
Oui.
Donc c'était comme ça. Mais dès le début, on a eu des signaux et je t'en parlerai peut-être après,
ouais,
qui nous ont montré que ça pouvait
fonctionner.
Et donc très vite, on s'est dit bon ben en fait, on a rien à perdre. On avait rien.
C'est bien comme mentalité. Ça.
On avait pas de pas de prix, rien qui nous.
Parce que c'est vrai que tu vas me le dire, mais le secteur du mobilier est quand même hyper concurrentiel. Je vois même là, si on parle de Zara Home qui est en train de prendre une place de plus en plus grosse, H&M. Enfin, tout le monde lance des collections de mobilier qui cartonnent. Et vous n'êtes pas dit attention, la concurrence est trop rude. Tu vous êtes lancé et tu vous êtes dit on verra bien quoi. C'est ça un peu.
Oui, c'est une bonne question. Et en plus, tu parles de Zara Home. Et en fait, je pense qu'il y a 3 points qui étaient importants pour nous. Déjà, tous les secteurs sont concurrentiels, je pense,
d'accord,
aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, on connaît très bien le secteur, donc on savait dans quoi on se lançait.
Okay.
Et en plus, c'était une passion. Donc, quoi qu'il en soit, on voulait se lancer dans ce secteur. Et ensuite, 2 choses, c'était d'être spécialisé. Ça nous permet d'avoir vraiment un niveau de qualité, un niveau d'exigence, un niveau de service client qui est poussé au maximum parce qu'on se concentre uniquement sur un matériau, la pierre naturelle, le marbre, le travertin, le quartzite. Donc ce niveau de spécialisation, d'être un peu niche en fait, je pense que ça nous permet de nous différencier. Et enfin, c'est le positionnement. Tout de suite, nous, on a voulu avoir un positionnement haut de gamme, oui. Ce qui nous différencie des acteurs plus mass market avec lesquels, effectivement, on n'aurait pas pu être en concurrence. Mm-hmm. Mais les personnes, quand elles veulent de la qualité, un service premium...
Mais c'est marrant, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai commandé une table chez vous et c'est absolument. Vrai que j'ai été bluffé par la livraison qui est juste exceptionnelle et c'est souvent ce qui pêche en étant honnête dans les entreprises où finalement t'as toujours le livreur qui te dit « Ah mais moi on m'a dit de laisser au rez-de-chaussée alors que toi t'habites au 6e », il y a toujours ce problème-là. Chez vous c'est vrai que c'est un confort alors que les plateaux pèsent quand même très lourd, oui. Je crois que le nôtre il faisait 100 kilos donc faut quand même... Et ça j'ai trouvé que c'était un bonheur en fait. Je crois que la livraison c'est limite plus important que le produit. Enfin, c'est pour un client, je trouve que d'avoir une livraison comme ça qui roule, c'est super efficace et ça donne envie de recommander en fait.
Absolument, on essaie d'avoir une livraison gant blanc. Toi, tu as une table à manger, notre modèle oui. Maja, et ça, c'est un peu aussi la magie de Thomas, qui est ingénieur avec une spécialité en logistique. La logistique d'avoir cette livraison gant blanc, ça a toujours été un point d'honneur pour nous. Mm-hmm. On propose des produits qui sont haut de gamme, avec un certain prix. Il faut que le service client il soit en accord avec ça, et c'est aussi l'avantage de se spécialiser sur un matériau, oui. C'est-à-dire qu'on le connaît parfaitement, on sait les complexités qu'il peut y avoir. Et du coup, on a internalisé notre service de D'accord. livraison en région parisienne. Et du coup, toutes les personnes qui commandent sont livrées automatiquement à l'étage. Nos livreurs connaissent les produits par cœur, même mieux c'est que vrai. Moi pour les installer. Et du coup, c'est une de nos qualités et c'est ce qui nous permet de nous différencier.
C'est ça. Et parce que tu dis, oui, on est les spécialistes, en gros, de la pierre naturelle. Ouais. Mais au début, vous avez fait comment? C'est-à-dire que c'est intéressant, tu te rends sur place, parce que c'est pas en France, en fait, que tu as les pierres naturelles. Donc, tu vas dans d'autres pays, tu te déplaces, tu te dis, allez, je vais aller voir. Ou comment tu fais pour te dire, tiens, il faut que je trouve une usine qui fait des pierres? Comment ça se passe un peu?
C'est une bonne question. Et c'est, en fait, quand on s'est lancé au début, ouais. On a vu assez clairement toutes les étapes qu'on devait faire pour arriver à ce qu'on voulait. Et je pense que cette vision assez claire qui nous a permis d'avancer de manière structurée. Mais Thomas avait déjà travaillé dans les achats.
D'accord.
Mais rien à voir avec la pierre. Et du coup, il sait développer des relations avec des partenaires. Okay. C'est un de ses points forts. Et du coup, après, ça a été un peu la magie des relations qu'on a créées. On a eu la chance d'avoir quelqu'un, d'avoir un premier partenaire qui nous a fait confiance. Mais on a toujours été très sérieux quand on a approché les partenaires avec okay. Une collection qui était très bien dessinée, des dessins techniques qui étaient très précis.
D'accord.
Et puis...
Qui facilite le travail en fait de l'usine là-bas.
Qui facilite le travail, qui facilite le fait que nos partenaires avaient confiance en nous. Et après, il suffit d'une personne qui nous fasse confiance, avec qui on a développé des très bonnes relations encore maintenant, et pour lancer en fait la machine. Mais on n'a pas pu se rendre là-bas tout de suite. On fait une partie de notre production
C'est
en
où,
Turquie,
d'ailleurs d'accord.
en Turquie, okay. Pays avec lequel on adore travailler parce qu'ils sont extrêmement carré.
Ok.
Et parce que c'était pendant la période des confinements et du Covid.
Oui, bah oui.
Mais quand on a pu, quand on s'est mis à temps plein sur notre entreprise et que c'est devenu un vrai projet et qu'en plus on a pu se rendre sur place, on y allait et ça a validé toutes nos attentes, nos relations se sont encore plus fluidifiées. On a développé aussi des relations avec d'autres partenaires, ce qui est extrêmement important quand on produit. Et on a créé tout ça sur le long terme. Et c'est aussi vraiment une des forces de Thomas, c'est de savoir créer des très bonnes relations et d'être aussi un très bon négociateur.
Non, mais c'est important.
Important.
Ouais,
c'est
non,
important
mais c'est vrai.
Oui, d'avoir des bonnes conditions, sur le long terme, de bien savoir gérer la production, c'est essentiel. Et il fait ça, lui...
Donc vous avez vraiment, 100%. En fait, chacun votre spécialité.
Ouais.
C'est un binôme hyper complémentaire, en fait, c'est ça?
Je pense que c'est une de nos forces qui passe par trois choses. On ne sait pas faire la même chose.
D'accord.
Donc, en fait, on ne travaille pas si souvent que ça ensemble, même si l'entreprise, c'est vraiment 50% lui, 50% moi dans la
Bien
création,
sûr.
Même si maintenant, on est avec une équipe. Ensuite, c'est tout simplement une petite part d'admiration et se faire confiance.
Bien sûr.
Je lui confierai ma vie, en fait. Donc, c'est ce qui fait qu'il gère à 100% ses sujets. Et lui, il trouve aussi que je gère bien. et de pas se marcher un peu sur nos plates-bandes.
Et il y a une vie, la vie pro et la vie perso est mélangée, ou quand vous dites 100%. On rentre à la maison, on arrête d'en parler, ou c'est, est-ce qu'il y a un des règles que vous êtes mis, ou finalement ça fonctionne très bien de, entre vous deux, il n'y a pas besoin de dire bon là stop, j'en ai marre ou...
Thomas est plus comme ça.
Okay.
Il va plus me dire là,
allez, c'est bon, on a fait
stop, on arrête. Et au début, tout est mélangé, honnêtement. Et on va aligner nos ambitions de l'entreprise et la gestion financière de l'entreprise à nos objectifs personnels.
D'accord.
Que je te dirai juste après. Mmh. Et, mais au début, on travaillait le soir, etc. Depuis qu'on a fondé une famille, on va dire que à la maison, on n'a plus vraiment le temps de travailler.
Il y a des priorités aussi.
Voilà,
les enfants,
on a d'autres priorités qui sont arrivées, mais tout est mélangé. Et par exemple, on a toujours eu à cœur d'avoir une entreprise qui soit rentable dès la première année.
D'accord.
Parce qu'on avait aussi des objectifs perso, comme acheter un appartement.
Bien sûr.
Et comme tu le sais, quand on est entrepreneur, c'est pas forcément évident.
Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais. Ma question qui arrive, c'est est-ce que l'investissement au départ a été gros ? Parce que là, tu me dis, les pierres naturelles en marbre, etc. Ouais. Les gens doivent se dire, voilà, mais ils ont mis combien au départ ?
C'est une question que j'aime beaucoup parce que ça me fait vraiment me rendre compte du parcours qu'on a eu jusqu'à présent. Non, l'investissement financier a été très petit, moins de 10 000 euros. C'était nos économies à tous les deux, toutes nos économies. On n'a pas eu de love money, d'argent de notre famille. C'était, encore une fois, c'était un projet vraiment en side. Et du coup, on a mis un peu toutes nos économies en commun, mais en essayant de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on a mis une partie des économies pour faire une petite production.
Ok.
Et ce qui était beaucoup pour nous, mais on se disait, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Au pire, je revendrais sur le bon coin au prix où je l'ai acheté, en fait.
Ouais, non, mais c'est marrant de. Oui, bien sûr.
Je me disais, voilà, au pire,
et
c'est
vous
pas
avez,
grave.
Vous avez lancé quoi comme premier produit
Des tables basses en travertin.
Ok.
Et des colonnes en travertin que j'avais dessinées. On avait un ami qui était ingénieur mécanique qui nous a fait tous les plans.
Super.
Et qui maintenant, 2 ans après, a rejoint l'entreprise. Donc c'est
l'histoire est belle.
L'histoire est très belle et qui est encore là, c'est Théo. Et puis, voilà, on a lancé cette petite collection sans être allé sur place. On se disait, mais au pire, ça se trouve, on va pas recevoir, ça se trouve...
T'es dans une inconnue un peu, mais j'ai envie de dire, comme un peu tout projet qui se lance.
Exactement, mais on avait très peu de moyens et on se disait, OK, on n'a pas beaucoup d'argent, mais... Moi, j'avais une vision très claire de ce que je voulais et mes inspirations, je prenais toujours soit des marques de luxe, soit des marques vraiment haut de gamme. Et je me disais, comment je peux arriver à ce niveau d'image avec peu de moyens? Donc, on a fait nos premiers shootings photos dans notre appartement à l'époque à Paris de 27 mètres carrés. Mais on a loué du matériel, j'avais une vision de la lumière de ce que je voulais et on a réussi à faire des choses très avec une belle image. Mais avec peu de moyens. Et après, on a lancé des précommandes, ce qui nous a permis de construire notre trésorerie.
C'est-à-dire que précommande, c'est une fois que c'est payé, là, tu lances la production,
ouais,
c'est ça ?
On a attendu d'avoir un peu de trésorerie pour lancer des productions.
Okay.
Et c'est ces précommandes qui ont financé notre trésorerie. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, qu'on est autofinancé depuis le début de l'entreprise.
Ça a tout de suite fonctionné, en fait.
Ça a commencé à bien prendre, mais on a toujours une gestion assez précise de notre entreprise, tout simplement parce que c'était aussi notre projet de... C'est rapidement devenu notre projet de vie et notre source de revenus. Et comme je te disais, on voulait acheter un appartement, donc on avait besoin d'avoir 3 bons bilans très concrète pour pouvoir acheter notre appartement. Finalement, on a pu le faire avant d'avoir 3 bons bilans parce qu'on avait un très bon carnet de commandes. Donc,
d'accord.
La banque nous a fait confiance. Mais voilà, c'est ce qui te montre que la gestion financière et nos objectifs pour l'entreprise ont toujours été très liés parce que le pro, le perso étaient liés. Et donc, on a une entreprise qui est saine et rentable.
Magnifique.
Depuis le début.
Maintenant, Talca est très installé et plus en plus de gens vous connaissent, et même dans le milieu de l'immobilier, on vous connaît beaucoup. Quels sont maintenant les produits phares, en fait, de Talca ? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent très fort ?
Oui, les tables à manger sont vraiment nos produits phares parce que finalement, c'est assez compliqué d'en faire et de faire des belles tables à manger.
Oui.
En marbre, surtout sur, on va dire, les grands acteurs qui vont être un peu multimatériaux, parce qu'en fait, il y a pas mal de complexité. C'est lourd, faut pas le casser. La livraison peut être un peu complexe. Et du coup, Nous, on fait de la bonne qualité et on a un bon service de clients et logistique. Donc, ça, c'est vraiment de nos produits phares. On a commencé avec le travertin qui était vraiment notre pierre phare. Et maintenant, on fait aussi beaucoup de marbre caricata, du quartzite, différents types de marbre. Donc, on a la chance d'avoir une répartition des best-sellers assez équilibrée. Super.
Et est-ce que, parce que c'est un peu aussi une question, est-ce que maintenant tu dis je vais lancer des nouvelles collections, est-ce qu'il y a des, tu vois, est-ce qu'il y a des tendances pour la rentrée, est-ce que tu dois t'adapter aussi aux nouvelles tendances du marché ou comment ça se passe?
Oui, alors bah, les tendances en décoration, c'est, le temps est un peu plus long qu'en mode par D'accord. exemple, mais quelque chose qu'on observe depuis déjà un moment et qui me fait très plaisir, c'est qu'on sort des intérieurs très neutres et que les gens réintroduisent la couleur chez eux. Et ça, nous, ça se traduit par le fait que les gens ne sont plus juste attirés par des belles tables en travertin beige très neutre, D'accord. mais osent des marbres un peu plus audacieux, comme du marbre rouge Rosso Evento, wow. Du marbre oui, noir Picasso.
Qui va faire ressortir un peu la pièce. Mais d'ailleurs, je trouve ça très beau, nous, quand on vend des appartements et qu'il y a une touche de couleur comme ouais. ça. Même pour le shooting, ça fait tout de suite ressortir un peu tout le... Tout le, par exemple, les moulures, le parquet, d'avoir une table rouge, je trouve que c'est un parti pris, mais qui est intéressant.
Totalement, et les gens osent beaucoup plus, je trouve, ces derniers mois, années, que quand on s'est lancé, où tout le monde voulait un intérieur très beige, très blanc. Donc ça je dirais évolue. Vraiment la couleur et plus oser, même les motifs.
D'accord. Et du coup, ça c'est un travail où tu regardes un peu ce qui se passe pour pas que ça devienne que finalement vous perdiez un peu le wagon de... Faut se remettre en question, je suppose, quand même, non ?
Tout le temps.
Tout le temps ?
Ouais, je dirais qu'il faut toujours se remettre en question et rester vigilant et rester un peu à l'écoute de ce qui se passe. Mais comme je te disais au début, c'est ma passion. Hein. Et oui. donc, je le fais de manière très naturelle. Je lis une dizaine de magazines par mois, mais parce que ça me plaît, en fait.
D'accord.
Parce que je refais mon appartement, parce que je suis toujours passionnée de découvrir des nouveaux architectes d'intérieur, de découvrir des nouveaux acteurs dans le secteur, que ce soit en France, et aussi de regarder beaucoup à l'étranger ce qui se passe. Ça donne souvent des indications sur les tendances qui vont arriver après en okay. France.
Ah oui, donc tu es vraiment aussi là-dessus à regarder ce qui ouais. va être un peu la tendance de l'année prochaine ou quoi que ce soit.
Partout dans les pays anglo-saxons, beaucoup. Je suis toujours à l'écoute, mais de manière, on va dire, comme une passionnée, pas parce que j'ai besoin pour tel cas.
Oui, donc
mais c'est important
super.
D'être à l'écoute.
Ok. Et après, en termes de clients, vous avez forcément la majorité, c'est des particuliers ou maintenant vous avez aussi des pros, des entreprises qui vous demandent du mobilier ou est-ce que ça a évolué ça en termes de clientèle?
Ça a évolué tout au début quand on s'est lancé. On a fait un site internet donc oui. c'était plus particulier. Et en fait, très vite, on a eu la chance d'avoir des entreprises comme LVMH ou Cézanne qui nous ont fait confiance pour le merchandising de leur boutique.
Super.
Puis ensuite, des groupes hôteliers qui nous ont commandé, comme le groupe Barrière, par exemple.
Et ça met pas la pression quand LVMH vous dit, nous, on veut des tables pour...
On est content. Ouais, on est content et on travaille de la même manière qu'avec nos particuliers, c'est-à-dire essayer de proposer la meilleure qualité, toujours s'améliorer en qualité, de toute manière, toujours essayer de s'améliorer. Donc, ça arrivait assez vite et ça a été un peu des signaux qui nous ont dit, ah, peut-être qu'on tient...
Quelque chose.
Et maintenant, le B2B... Donc, le merchandising de boutique, les hôtels et les restaurants, ça représente plus de 60% de notre activité.
Ah oui,
et 40% les particuliers. Mais les deux se nourrissent mutuellement. Parce que, par exemple, quand on a une grande entreprise qui fait du champagne, qui vient nous demander des tables pour leur événement, ils nous disent, on a l'impression que vos clients particuliers ressemblent aux nôtres. Et donc, voilà, notre communication auprès du particulier nous sert pour le B2B et inversement, nos clients particuliers sont toujours contents de voir ce qu'on a fait pour des marques. Par exemple, quand on a fait des projets pour Dior, ils sont toujours, voilà, c'est toujours,
oui,
ça légitime aussi la marque. Donc, B2C, B2B, je trouve que ça se nourrit bien.
Et en plus, je peux témoigner de votre activité parce que dernièrement, vous avez dû livrer un club de foot assez rapidement.
Oui.
Le challenge n'était pas facile et je me suis dit waouh, ils ont dû travailler d'arrache-pied pour pouvoir livrer dans les temps.
Ouais, c'est le fait d'être encore une petite entreprise et d'être agile, en fait.
Oui, mais c'est bien aussi d'avoir cette réactivité, de dire même si on est petit, on va pouvoir remplir le contrat, et ça, c'est chouette quand même.
Ouais, c'était un bon projet.
Et maintenant que ça fait 5 ans, vous êtes combien dans l'entreprise ? Vous avez commencé à 2. Maintenant, si on englobe les livreurs, etc., un peu tout, à peu près.
Tout le monde, ça serait compliqué de dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour.
D'accord.
Donc, pour la livraison, les freelances pour le site, et tous les à côté, mais dans l'entreprise à temps plein en CDI, on vient de recruter une personne hier qu'on a signée, donc on
D'accord.
est 6.
Ok.
On va être 6 dans l'entreprise.
Super.
À temps plein.
À plein temps, ok.
Et puis après, beaucoup de gens qui gravitent autour pour les pubs de notre site internet, pour le
Oui, donc vous avez en fait des gens aussi en freelance ouais. que vous prenez. Ah ouais, donc c'est bien, disons, en 5 ans, c'est...
C'est une évolution assez constante et maîtrisée, et une croissance, oui, qu'on a cherché à être la plus saine possible. C'était un peu le mot d'ordre pour nous.
On sent que vous êtes... c'est doucement, mais sûrement que c'est solide, quoi.
On essaie de faire quelque chose de solide, encore une fois, parce que, déjà, on aime bien cette indépendance.
D'accord.
Et puis, encore, c'est notre vie. On est tous les deux dans le même bateau avec Thomas. Et on a notre famille maintenant.
Bien sûr.
Donc, en
oui,
fait,
oui,
tout
y
ce
y
qu'on
des...
fait,
Bien sûr.
Il faut qu'on le fasse de manière pérenne, en fait, parce que pour que ça serve notre vie, tout simplement, et nos objectifs de vie.
Si tu avais des conseils à donner à une personne ou un couple un peu comme vous qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a des choses où il faut faire attention, des conseils que tu peux donner ? Là, de ce que tu me dis depuis le début, c'est faut pas hésiter à se lancer finalement quand même, malgré le peu d'économie qu'on peut avoir et pour faire des grands projets. Mais est-ce que t'as quand même des conseils à leur donner ?
Oui, t'as un peu tout dit. Moi, je dirais, c'est pas parce qu'on commence petit qu'il faut voir petit. C'est
D'accord.
vraiment la chose que je dirais le plus. C'est-à-dire, quand on commence, même si on a peu de moyens, faire les choses bien, faire les choses très proprement, faire un bon site, mais se débrouiller. Nous, on avait trouvé un copain qui nous a fait le site, mais quand je lui donnais les références de ce que je voulais, je montrais des sites soit qui cartonnait en e-commerce, mm-hmm. soit qui avait une DA qui était canon. Donc vraiment faire les choses très bien, faire des bonnes photos, s'il faut mettre un tout petit peu plus d'argent à un endroit, bien réfléchir ou être créatif pour donner une image de marque qui soit la plus propre possible. En logistique, avoir une logistique qui soit... Essayer d'être carré depuis le début, même si c'est toi qui le fais, mm-hmm. essayer d'avoir un bon service logistique.
Ouais, d'être rigoureux.
Donc, d'être très rigoureux et d'avoir une vision, de voir en grand, en fait, même si, même avec des moyens petits. Donc, je dirais ça. Je dirais aussi également de bien s'entourer, que le réseau, c'est super important et que
D'accord.
c'était un mot qui me faisait un peu peur quand j'étais mm-hmm. plus jeune. Mais en fait, le réseau, c'est juste génial. C'est les relations sincères qu'on a créées au fil du chemin. Et
sans eux, ça n'aurait pas été possible, finalement.
Ouais.
On se rend compte de ce que tu me dis lors de notre échange-là. C'est que finalement, tu as des rencontres qui ont fait que ça a fait que tu as le cas.
Totalement.
On est là aussi aujourd'hui.
Totalement, c'est les rencontres. Et maintenant, on est amis avec des marques qui sont beaucoup plus avancées que nous, qui peuvent même être centenaires. Enfin, voilà, on est amis avec beaucoup de marques du secteur qui nous donnent des conseils, qui sont toujours très précieux. On a intégré un réseau d'entreprises.
Donc, être ouvert aussi, alors.
Aidé. Ouais, être ouvert. Rencontrer des gens, être tourné à la fois vers les rencontres, écouter ses clients aussi, bien évidemment. Et une dernière chose que je dirais, c'est pas s'éparpiller, mais toujours s'améliorer. Toujours essayer de dire qu'est-ce que je peux rajouter à mon site pour qu'il soit mieux. Comment la prochaine fois que je fais des photos, elles peuvent être mieux. Là, j'ai fait un shooting dans cet appartement. Je parle plutôt de ma partie
bien
à
sûr,
moi.
Bien
mais
sûr.
J'ai fait un shooting dans un appartement qui était comme ça. Comment je peux
Upgrader.
Atteindre un meilleur appartement pour faire des photos encore plus haut de gamme la prochaine fois si ton objectif, c'est de monter en gamme. Donc, simple, mais toujours en essayant de s'améliorer, je dirais.
C'est des bons conseils. Et finalement, je vois qu'aussi, on peut réussir malgré un secteur concurrentiel. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, mince, il y a déjà trop d'acteurs. Moi, je ne vais pas y arriver parce que finalement, vous êtes lancé quand même dans un secteur où il y a déjà beaucoup de enfin, des tables à manger. Il y en a. Alors, vous, c'est vrai que c'est en pire naturel, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire, si mon idée, je la sens bien, il faut y aller, il faut y croire. C'est ça aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours cru, en fait, finalement.
J'y ai toujours cru. Ouais, j'y ai toujours cru. Honnêtement, je parle beaucoup de mon intuition, mais j'avais l'impression que c'était ça parce qu'avec, on a su le saisir cette idée parce qu'on en avait parlé des centaines de fois ensemble, de plein d'idées différentes. Et du coup, quand on a eu la bonne idée, en tout cas pour moi qui est la bonne idée pour nous, on a su la saisir parce qu'on en parlait tout le temps. Et quand on en parle tout le temps aux gens entre nous, quand l'idée vient, on peut plus la saisir. Donc voilà. Et pour le secteur, pour le fait que ça soit concurrentiel, je dirais bien connaître son secteur, être spécialiste, nous ça nous a aidé. Et le positionnement, bien choisir son positionnement.
Super. Et j'ai une dernière question avant de clôturer l'échange. Quelles sont les ambitions pour Talca d'ici 5 ans? Est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que tu veux pousser le curseur un peu plus loin? Est-ce que tu peux nous dire pour clôturer l'épisode?
Ben, nos ambitions, elles évoluent toujours. C'est toujours des questions qu'on se pose. Est-ce qu'un jour on fera une levée de fonds? Non. Est-ce qu'on veut rester indépendant? Mais je pense que tout entrepreneur se pose ce type de questions. Mais de manière plus spécifique, nos ambitions, c'est l'international.
D'accord.
C'est continuer à faire des designs qui soient différenciants et qui apportent quelque chose de nouveau. C'est aussi asseoir notre place sur le marché de l'hospitalité. Donc, on se développe très, très bien en hôtellerie et en restauration. On a une offre qui est dédiée.
Okay.
Et c'est continuer à pouvoir avoir une place de choix auprès des hôtels et 4 et 5 étoiles.
Super.
Voilà.
Eh ben en tout cas, je te souhaite plein de réussites et plein de nouveaux contrats et de nouveaux projets. Merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. Je pense que les gens vont trouver ça passionnant. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dernier Étage.
Merci beaucoup.
Merci à toi.